Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 15h.
Sire, Madame, Altesse Royale, Mesdames, Messieurs.
Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
Mais d'abord, c'est un style oral, un style parlé, mais très calculé, avec un rythme secret. Une jubilation du mot, voyez-vous, une joie de la syllabe, fait une espèce de dégustation charmante des vocales.
Bonjour à tous et bienvenue dans DT Fabula Narratour, votre émission de collage littéraire et d'exercice de style. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de collage littéraire ? Eh bien, chaque semaine, nous vous proposons la lecture d'une suite de textes en rapport avec une thématique choisie par avance. À chaque fois, nous essaierons de vous immerger dans leur fiction et de vous transporter d'un texte à un autre sans que vous y preniez garde. DT Fabula Narratour, c'est également diverses rubriques que vous retrouverez chaque semaine pour certaines, plus épisodiquement pour d'autres. Ainsi, l'intervention de notre estimable professeur Olibrius, une rubrique aléatoire ou encore l'anecdote ou les courriers des lecteurs. En parlant des courriers des lecteurs, nous n'avons reçu que deux cette semaine. Alors malheureusement, les papiers d'un certain Cronenberg ne pourront être lus à l'antenne faute d'être lisibles. Trois pages en pâte de mouche, hein, littéralement, indéchiffrables par notre équipe. Donc voilà, c'est dommage. Nous avons reçu un deuxième courrier d'un certain L. Trolsky. Donc voilà, je vais vous le lire. Salut les vaillants du samedi après-midi. Dites voir, il n'y en aurait pas un d'entre vous qui serait sur le point d'avoir un service à me demander, ou peut-être même vous tous, vous en avez après mes thunes. Non, parce que la dernière fois, Rob Zombie plus Lovecraft plus l'International revisité, je me suis dit que c'est Noël avant l'heure pour ma pomme, et connaissant votre clique, j'ai trouvé ça louche. Alors j'aimerais autant vous le dire tout de suite, vous aurez que dalle, pas un zloty, pas même un bout de mon grec. Doctrinement, L. Trolsky.
Curieux personnage, moi je vois pas de qui il s'agit.
Non, moi non plus, hein, c'est un individu mystérieux, on sait pas trop nous parler sur ce ton, c'est un peu bon.
Ça me dit quelque chose quand même, Trolsky.
Un obscur jeu de mots, j'imagine, hein. Qui sommes-nous pour le déchiffrer?
Un certain Léon Trolsky, peut-être.
Certes,
Léon, ah
Léon, oui, c'est l'autre, ça, une sorte de Léon, ouais. En tout cas, chers auditeurs, vous pouvez également nous écrire, si vous le souhaitez, pour nous faire part de vos courriers, à l'adresse Fabula Narratour, 1,61, Ruelle des Théorèmes, Babel, CDX12. Non, alors, blague à part, non, vous pouvez nous écrire donc à fabula.narratour@laposte.net. Vous découvrirez donc notre prochain cycle d'émissions thématiques autour de la fin à partir de la semaine prochaine. En attendant, nous vous proposons aujourd'hui de poursuivre avec notre deuxième émission hors série. Au programme, la deuxième partie de la fiction originale amorcée la semaine dernière. Et vous retrouverez également en seconde partie d'émission, en plus de notre habituelle rubrique aléatoire et du bon mot du professeur Olibrius, vous pourrez entendre des textes et des musiques aux échos halloweenesques. Tout de suite, nous retrouvons la deuxième et dernière partie de notre création radiophonique, donc Fraude à l'assurance. Après s'être fait dérober son matériel professionnel, à la suite de sa propre négligence, Jean Favre, l'assistant au son, est contraint d'élaborer un mensonge pour que le vol soit couvert par l'assurance. Merci, bonne écoute à vous.
quatrième partie, l'élaboration du récit.
Bon, vas-y, explique-moi comment tu t'es fait voler le matériel.
Bah ça va, je t'ai déjà expliqué. Tu vas pas me faire répéter encore et encore par le menu cette erreur d'appréciation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'avais envie de boire une bière après cette journée de merde.
Mais Jean, je me fiche de ce qui est arrivé. Je veux que tu me dises comment tu vas témoigner. Tu comprends bien qu'on a tous intérêt que ça passe comme une lettre à la poste.
Bien, je suis sorti de chez l'ingé son avec le matériel. J'allais jusqu'à ma voiture.
Elle était garée où, ta voiture ?
Elle était dans le parking en contrebas.
C'est un parking privé ?
Non, c'était une place de parking dans la rue.
Et c'était loin de la porte de l'immeuble ?
C'était à quoi, 150 mètres de la porte ?
Avec une telle précision, ce sera beaucoup plus simple pour nos services d'identifier votre agresseur.
Ouais, t'as raison. Plus j'en dis, plus je peux me trahir.
Écoute, si c'était tant que ça, une journée merdique, t'as qu'à jouer l'exploité qui a rien vu, rien entendu et qui a rien compris à ce qui lui arrivait. Crois-moi, c'est le meilleur moyen de s'attirer la sympathie des flics. De jouer le crétin qui a rien fait comme il fallait parce qu'il pige rien. Qu'est-ce que tu veux qu'un flic aille chercher la merde dans le discours d'un crétin ?
Ouais.
Puis passer pour un crétin dans ton cas, ce sera pas trop difficile, pas vrai ?
Ah, très drôle.
Bon, j'ai plein de choses à voir aujourd'hui, alors je te propose de retourner sur les lieux, de trouver une vraie version des faits, super détaillée et contre laquelle on ne peut rien dire. Et ensuite, attends 2-3 jours avant de déposer plainte et disant le moins possible.
On peut dire que c'est un pragmatique, le producteur.
En plus, t'es même pas directement concerné, puisque le matériel t'appartient pas et que c'est la boîte qui les
a. Il y a une façon bien à lui de m'expliquer que je n'ai aucune pression à ressentir sur mes épaules.
Alors pourquoi t'irais dire un gros chat ?
Et qu'en même temps, je ne peux pas faillir.
Tu déposes plainte parce que l'assurance le demande et puis c'est tout.
J'admire son management.
T'as aucun intérêt personnel là-dedans, faut que t'aies l'air de t'en foutre.
Faut que tu fonces sans te faire de soucis.
C'est leur métier aux assureurs de payer ce qui est assuré.
On ne va pas y passer 3 heures.
Tout le monde dans cette histoire s'en tire à bon compte.
Mais planifie une version bis du discours crétin.
En comparaison du coût de l'ensemble.
La version la plus précise à laquelle pourrait aller un improbable contradicteur pugnace. De façon à ne pas risquer le procès en fausse déclaration. Est-ce que ça implique vis-à-vis de l'assurance ?
Tu vois, il suffit que tu portes assez bien le costume pour qu'on se mette pas à douter. Tout ce qu'on attend de toi, c'est que tu ne dises rien qui éveille un soupçon, point barre. Sur ce, si tu veux bien...
Alors je retourne sur les lieux. C'est la fin de la matinée. Je me balade sur cette place qui fait office de parking. C'est la place Thiers. Je poursuis ma balade, je refais le fil de la soirée et je me demande quel moment est le plus propice. Je fais le tour du pâté de maison. Je décide finalement d'aller déjeuner dans le bar, dont le nom restait jusqu'à présent inconnu de moi. L'Aventure. Ouais, il porte bien son nom. Mais il ne fait pas le service de déjeuner. Alors je vais un peu plus loin dans une brasserie un peu plus chère, plus proche du centre passant. Dans ce tabac-brasserie où quelques habitués boivent déjà leur deuxième ou troisième verre, je déjeune. En douillet de frites. Puis j'achète 2 paquets de clopes. À la caisse, je remarque qu'une caméra est braquée sur moi. Je cherche le retour vidéo des yeux en suivant les câbles. La clientèle me presse et la patronne m'expédie. Je dois dire qu'elle m'a mis le doute. Je reprends mes vérifications, mon tour paranoïaque. Pas de caméra sur la place Thiers. Pas dans la rue passante. Je vérifierai au bar, sait-on jamais. Pas non plus, vraisemblablement, dans l'immeuble de l'ingé son. Mais il vaudrait tout de même pouvoir vérifier. Mais je finis par me dire que personne ne mettra en doute ma déclaration. Mille scénarios se pressent dans ma tête et j'essaie de trouver celui qui tiendra le mieux debout. Il faut dire que le plus sûr dans mon récit, c'est le vrai. Je veux dire ce qui est effectivement arrivé. Tout le reste n'est qu'un bricolage. Et sans doute, plus ce sera simple, plus ce sera crédible. J'hésite en imaginant diverses versions à solliciter l'ingé son. Il me semble clair que l'intégrer à la couche mensongère, à la couche qui nivelle le réel, c'est prendre un risque inutile. Dois-je pour autant passer sous silence l'histoire du deuxième ensemble de sons que j'ai loué à la dernière minute ? Le passage chez lui, la bière pendant qu'il rédigeait les papiers, tous ces détails insignifiants que je n'ai pas besoin de donner, mais vis-à-vis desquels il faudrait que je puisse statuer une bonne fois pour toutes. De toute façon, le mieux est que je dise le plus possible de vérité, que j'intègre autant que possible les faits réels. Mais si je parle de la deuxième location, on peut me demander si je m'étais déjà fait voler à ce moment-là. Je dirais obligatoirement que oui, puisque si je dis non, comment justifier cette initiative, la deuxième location ? De plus, si je ne me suis pas fait voler, le matériel se trouve dans ma voiture à ce moment-là. Et j'ai donc un intérêt clair à une fausse déclaration. Les vols dans un véhicule sont très mal couverts. Bon, là, un gesson. Je dirais que je lui ai raconté n'importe quoi. Que c'était bien suite au vol et non suite à une décision de la production que j'ai faite de mon propre chef de la deuxième location. Pour sauver le tournage. Je lui mentais sur la cause pour garder la face. Je me donne quelques principes simples. plus le récit repose sur d'autres personnes, plus il peut se trouver des contradictions. En même temps, je me doute bien sûr qu'aucune version des faits n'est jamais tout à fait raccord, selon qu'on interroge l'un ou l'autre protagoniste de la scène. C'est ce qu'on doit appeler la subjectivité. Mais de là faire rentrer dans le scénario d'autres personnes, non, c'est pas très malin. Idem par rapport au réel fait réel. Mieux vaut s'y tenir le plus possible et broder un seul moment dans un moment d'ombre où je suis seul, nécessairement. Voilà qui est tout héroïque. Maintenant, il faudra que j'invente le modus operandi. Je suppose que le plus simple, c'est de ne pas avoir à donner de description. Enfin, juste le tableau d'ensemble. Et pour le reste, fouiller et ne pas trop savoir. Comment l'expliquer? Je ne sais pas, tout s'est passé si vite, en un instant, sans que je comprenne, et tout le reste à l'avenant. Deux gars se sont approchés. Non, plutôt un gars s'est approché. Il m'a demandé l'heure. J'avais ma montre à mon poignet droit, comme d'habitude. Je tenais à la main gauche le sac. Je peux vous montrer comme ça. Voilà, je ne sais pas précisément. Un gars s'est approché. Je l'ai bien vu, oui, il m'a demandé si je n'avais pas l'heure. Et ensuite, un bras a arraché le sac en bandoulière. J'ai couru pour rattraper l'agresseur. Je crois que je le tenais sur mon épaule gauche. Et franchement, je ne pourrais pas le jurer. Lorsque je suis revenu à moi, un instant plus tard, j'entendais des bruits de pas de course tout autour, et on avait pris la valise sur laquelle j'étais assis. Et elles ont couru plus vite que moi. Quelqu'un m'a fait un croche-pied, je suis tombé par terre. Je n'ai pas eu de conclusion. Mon sac plus ma valise. Je ne sais pas trop comment vous dire à quoi ressemblait le type. Il ne faisait pas très clair, il faisait sombre. Je pense qu'il était châtain. Ou brun. Je dirais qu'il était un peu plus petit que moi. Et il faudrait que je me trouve un modèle comme base de description correspondante. Seulement, il y a encore quelques éléments qui posent problème. Admettons qu'il retrouve, suite au dépôt de la plainte, le matériel. Il prendrait sur le bon coin le receleur, et avec un peu de chance, ce serait le même jobard que celui qui m'a tiré le sac. Il l'interrogerait sur le vol. Et le gars dirait certainement la simple vérité. De l'écart qui existerait entre ma version elliptique et la sienne, simple, efficace, brillante d'ingénuité, moi, à leur place, je conclurais un mensonge. S'il y a eu agression, évidemment, il aurait intérêt à minorer le vol. Mais enfin, en tout cas, si j'étais l'enquêteur, je prendrais la peine de vérifier. Comment pourrait-il trouver de quoi me contredire? Question déjà posée. Question difficile. C'est comme finalement lorsqu'on lit un livre, quand on regarde un film, qu'on juge que ce n'est pas bon, qu'il en fait trop, que ça ne colle pas. Est-on vraiment toujours capable de donner un détail précis pour arriver à cette conclusion? Non, je crois que c'est plutôt une impression générale. En même temps, il doit bien se trouver des gens minutieux qui, au moindre prétexte offert, diligentent une enquête, ou se donnent simplement le quart d'heure utile pour une vérification. Ouais, c'est ça. Une vérification. Le problème, c'est la première vérification. Si j'ai un doute, une vérification suffit généralement à lever l'incertitude et à reposer l'esprit. D'abord, ne pas laisser le doute se lever, mais s'assurer que la fable d'ensemble n'offre pas de prise à un doute malvenu, à une incrédulité arrogante. Je vais finalement boire le café à l'aventure. Il n'y a pas de vidéosurveillance. Ça, c'était couru d'avance. Et une chose me chagrine tout de même. C'est que j'ai laissé mes coordonnées au bar. Nom, nature du vol et luxe suprême, le numéro de téléphone qu'un agent s'empresserait de composer pour me convoquer. Le bar a tenu cet après-midi par la même femme que l'autre soir. Elle ne semble pas m'avoir reconnu. Comme je termine mon café, je décide de m'accouder au bar pour voir ce qui pourrait être tenté. Je vous prends un autre allongé, s'il vous plaît. La serveuse s'exécute et pendant ce temps, je considère l'espace du bar en espérant trouver un coin où se regrouperaient tous les papiers. Mais je ne vois rien. Peut-être l'avait-elle glissé dans son tablier, je ne me souviens pas. Pour le moment, rien n'est à tenter. C'est un risque inutile, disons. Soyons sérieux. Ni l'assureur, ni la police ne va zoner sur internet et vérifier la facture d'acquisition de ce matos. Il faudrait que le receleur se fasse gauler pour qu'on revienne me voir. Je pourrais statuer plus tard sur ce problème et me concentrer sur la question du dépôt de plainte.
Cinquième partie. Extrait du récépissé de déclaration de plainte. Plainte déposée le 21 octobre 2013 sous le numéro de PV numéro 2013-05-34-46. Objet signalé. Objet multimédia. Type micro marque Sennheiser, modèle MKE600. Précision. Portant scratch jaune de l'association Lésée. Objet multimédia, type magnétophone marque Marantz, modèle PMD 661 MK2, précision, portant scratch, étiquette de l'association et comportant une carte de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater de droit contre X, vol à la tire, scellé, non. Transmis à Monsieur le procureur de la République. L'an 2013, le 21 octobre à 14h53, nous, Mélanie Van de Velde, brigadière de police, agent de police judiciaire, étant au service, agissant conformément aux instructions de Monsieur le commissaire de police, chef du service de sécurité et de proximité, constatons que se présente à nous la personne ci-dessous nommée qui nous déclare, sur son identité, « Je me nomme Favre Jean. Je suis né le 12 février 1978 à Paris, 15e arrondissement, Île-de-France. Je suis de nationalité française. Je suis domicilié au 24 de la rue Montparnasse à Paris, 14e arrondissement. Sur les faits. Jeudi soir, je sortais d'un immeuble à Rennes, rue Saint-Thomas. J'avais avec moi du matériel de cinéma loué à l'association Action. En allant rejoindre ma voiture garée un peu plus loin, je me suis arrêté pour passer un coup de téléphone et pour fumer une cigarette. À cet endroit, il faisait sombre et il ne passait personne. Pendant mon coup de téléphone, un individu s'est approché et m'a demandé une cigarette. J'en profitais pour couper court avec mon correspondant. Je raccrochais et lui donnais une cigarette. C'est alors que l'homme m'a poussé et a pris mon sac de matériel. J'ai voulu courir derrière lui et j'ai chuté suite à un croche-pied qu'un complice m'a fait. Distancé, je n'ai pas pu rattraper les auteurs du vol. Concernant la personne qui s'est adressée à moi et m'a poussé, il s'agit d'un homme âgé d'environ 35 ans, mesurant environ 1m75, de corpulence moyenne, avec des cheveux bruns. Vu cette description, vous me présentez une série de 60 photographies issues du fichier Canonge. Je ne suis pas en mesure de reconnaître cet individu parmi les photographies. Je dépose plainte contre X pour les faits relatés. Je n'ai rien d'autre à déclarer. Après lecture faite personnellement, le déclarant persiste et signe avec nous le présent procès-verbal.
Sixième partie, épilogue.
Cette histoire est derrière moi. Je prends le café à l'aventure, ce café plein de souvenirs et de fictions. Mais fiction comme souvenir, tout retombe et finit par reposer dans l'oubli. Jusqu'à ce qu'un courant d'air soulève ces poussières virtuelles et nous les rappelle à l'esprit. Mais toutes ces fictions-là sont bien de l'histoire ancienne. Et j'ai tiré d'elles tout ce qu'un auteur pouvait en espérer. D'abord, j'ai compris qu'inventer des histoires est un moyen de dominer l'oisiveté. J'observe d'ailleurs que le fait de se trouver dans la peau d'un scénariste est inédit et très attrayant. Maîtriser une narration revient un peu à rester maître de soi. Il s'agit essentiellement de rester maître de tous les détails, de tous les différents aspects dépliés et collés de façon à ce que l'ensemble tienne debout. La facilité est un défaut duquel il vaut mieux se préserver, car elle engendre les récits entendus, et en tant que tel pas très captivants. Je vous accorde qu'une banale fraude à l'assurance n'a pas besoin d'être une bonne histoire. Mais je la raconte parce que je crois que la mienne en était une bonne. J'y arrive. Mais avant ça, je veux continuer sur ce qui est à mon avis une bonne histoire. L'ensemble doit paraître simple, coulant de lui-même, non? Mais si ce n'est pas le cas, arrive-t-on à imaginer? Le récit doit à la fois s'avérer remarquable, et en même temps offrir une forme, ou plutôt une apparence d'unité qui désarme le sceptique et la critique. Ceux-là doivent pouvoir regarder le récit et conclure « cela me dit quelque chose, voilà qui mérite plus ample examen ». C'est l'autre activité du scénariste que de ne pas doter son édifice d'une trop grosse prise à la critique. Au contraire, il s'agit plutôt de faire un bâtiment de guerre avec lequel on peut traverser le marais, lutter contre la persécution, contre la surveillance et le contrôle. Un lieu où il est possible de demeurer les mains libres, les rêveurs. Où l'on peut être pris et d'où l'on peut s'échapper. Alors à l'aide d'un magnétophone et d'un micro, je recueille des sons, et les dispose ça et là au long des lignes de mes pages. Je jouis ce faisant d'une grande autonomie, si l'on entend ainsi le fait de disposer le long d'une bande magnétique des rebondissements et des paroles à sa discrétion, selon son propre caprice, ou du moins d'après l'impression qu'on en a. Voyez ainsi ce bruit, et je ne suis plus à l'aventure. D'ailleurs, cette ambiance ne vient pas d'un café qui s'appelle l'aventure, mais d'un autre café. Le café de la mairie. Ce qui, vous me l'accorderez, laisse moins songeur. Ah, vous commencez à saisir. Vous avez le mobile. Le reste était un jeu d'enfant. Il suffisait de saisir la bonne occasion. Et croyez-moi ou non, ces occasions étaient nombreuses. Je n'aimais pas travailler dans cette boîte. J'ai donc un jour décidé de la voler. En définitive, d'ailleurs, je n'ai fait que voler l'assurance. elle-même en spéculant sur le risque, c'est-à-dire sur mon existence, volait l'entreprise. On perd à la virtualité d'un risque autant qu'à son existence. Et au moins en tant qu'existant, mon risque justifiait l'assurance. L'assurance me couvrait, non ? Là, l'excitation de bâtir un bon récit allait de pair avec le profit que je pourrais en tirer, et d'une certaine manière, j'étais payé au bon effet. Qui peut se plaindre que la critique juge dans ces conditions ? En voilà une critique d'art sincère. Jugez une pièce selon que le monde s'y prenne, ou au contraire vous pince et vous passe en procès. Vous me traitez de faussaire. Mais reprochez-vous au marionnettiste d'utiliser un pantin, à l'illusionniste ses illusions. Une bonne fiction doit être menée par un menteur donnant forme à des mensonges. Et d'une certaine façon, la bonne fiction transmute ainsi le mensonge en vérité. Et quand bien même ce ne serait que des mensonges, je ne vois pas pourquoi tout mensonge ne pourra être jugé à l'aune de sa propre fiction. N'est-il pas un des beaux-arts ? Les arts ne sont-ils pas de beaux mensonges ?
Fraude à l'assurance, une fiction radiophonique écrite par Nicolas Bresse et produite dans les studios de Radio Campus à Lille, sans matériel mal acquis. Arthur Hubert jouait Jean Favre, l'assistant Rotor. Victor Daubin jouait l'ingénieur du son. Julien Leclerc, le producteur. Et enfin, Estelle Dormion, la fonctionnaire de police. Il va sans dire que toute ressemblance avec des faits ou des personnes réelles serait purement fortuite.
Vous êtes bien sur Radio Campus Lille 106.6.
Non.
Pourquoi t'aimes pas ?
Parce que ça me fait trop peur.
Pourquoi ça te fait peur ?
Parce que parfois il peut y avoir ceux qui sont sales. Très sales.
Les monstres. Déjà tout petit, j'aime bien les monstres. Les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les monstres. Les monstres.
Les monstres.
Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les bestioles bizarres dans les cauchemars. Les monstres. Les trucs verts avec des poils ou les petits rampants. Les machins pas cool avec les bras tout gluants. Les trucs sans forme qui se transforment.
Un bonhomme
avec un corps tout difforme. Des araignées grosses, poilues, toute ma stock. Avec des mandibules faites pour bouffer un steak. Qu'avance qu'on sait pas ce que c'est. Tout noir avec des pinces et que c'est là pour étouffer. Des boules qu'on la cale avec des sales gueules. Des momies toutes molles avec des têtes de mongoles. Des bidules qui suintent marronnasses terrifiants. Des trucs qui pourrissent de partout, pétrifiants. Des grosses bêtes, des choses pas sympas. Des gros trucs cracra qui traînent grouille et qu'on les croue. Les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Encore, j'aime bien les monstres. Les trucs étranges, oranges et qui dérangent. Les monstres, les morts vivants, les squelettes, les fantômes. Les trucs mal faits comme à la foire du trône. Le train fantôme, super flippant, mieux qu'alien. Un barbapapa avec des poils de hyène. Les trucs qui se collent et qui te bouffent à l'intérieur. Des sangsues qui t'attaquent au cœur parce que c'est meilleur. Une grosse migale avec une tête de poule. Qui te fout la chair de poule quand elle tombe sur l'épaule. Les trucs genre me pètent chaud, en plus sale. Créatures dingues qui font perdre les pédales. Des trucs bizarres, tu sais pas où quelle est la tête. Des bébêtes sanguinolentes, molles comme une omelette. Des machins qui se traînent, ni chenilles, ni humains. Des trucs pas câlins qui ont toujours super faim. Bref, les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les monstres. Les monstres. Les monstres. Déjà tout petit. Déjà tout petit, j'aime bien le monstre.
Et maintenant, le bon mot du professeur.
Chers camarades, je suis sincèrement comblé même de vous revoir. Toutes vos sympathiques frimousses, dans la bonne humeur et la chaleur relative des locaux de Radio Campus, c'est tout de même autre chose que mes mésaventures des deux dernières semaines. J'ai cru comprendre que vous aviez bien reçu mon oiseau et mon courrier. Mais quelles histoires, mes amis, quelles histoires! Laissez-moi vous expliquer toutes ces péripéties plus en détail. Vous l'ignorez sans doute, mais j'entretiens de saines relations avec l'association des Amis de Tolkien. Ceux-ci sont tous de grands spécialistes, mais si vous voulez mon avis, leurs réunions ont tendance à perdre en sérieux. Surtout depuis qu'ils se sont mis à cultiver l'herbe à pipe de la comté en hydroponique, tout en l'hybridant à je ne sais quelle plante hollandaise. Pas des tulipes, j'en ai bien peur. Du Old Toby Super Skunk, qu'ils appellent ça. Depuis, j'ai bien l'impression qu'ils n'ouvrent guère les ouvrages de Tolkien. Problème de concentration, qu'ils disent. Ils ne regardent plus que les films de Peter Jackson, à vrai dire, en se faisant passer le calumet, les chips et en se livrant à des concours d'imitation de Gollum. Toujours est-il que c'est à l'occasion d'un de ces symposiums peu orthodoxes qu'ils m'ont proposé une petite étude de terrain. Ils avaient besoin d'un expert en terre du milieu, en forêt de Fangorn plus précisément, afin de partir à la recherche d'un champignon particulier. Une espèce aux vertus médicinales et autres propriétés controversées. Tolkien l'a décrit dans une lettre à Henri Michaud, retrouvée par son cercle d'admirateurs, et c'est sur ces traces qu'il m'envoie. Aucun d'entre eux ne voulait s'acquitter de cette tâche, ils n'en avaient pas le temps, puisqu'ils étaient alors en train d'analyser le troisième volet du Hobbit de Peter Jackson, et sous l'emprise du vieux Toby, les bouts en train s'étaient mis en tête de lui trouver quelques qualités, tâche impossible. J'ai donc coupé court à la mascarade, et après un saut à mon bibliatoire pour récupérer mon paquetage, je suis passé chez un professeur de mes amis pour lui emprunter sa toute dernière création, une DeLorean Fictio Mobile. Je lui explique que malheureusement, non, je ne pourrai probablement pas lui ramener un Palantir en souvenir. Et c'est sur une franche accolade que je prends la route pour la Terre du Milieu. J'arrive instantanément et comme prévu en forêt de Fangorn. Le doc a encore fait du bon boulot. Ah ! Et quant à la forêt, je ne vais pas vous mentir, j'ai connu des endroits plus accueillants. Pas encore débarqué, je dois taser une demi-douzaine de gobelins enragés qui avaient le projet à peine dissimulé de m'étriper sur le champ. Convulsant dans les ronces, sous les 200 000 volts de mon électricité nucléaire, la fine équipe d'assaillants verdâtres paraît bien plus pacifique. J'en profite pour les examiner d'un peu plus près, et à la vue de leurs pieds, je me fais cette réflexion. Ma recherche mycologique commence bien. Barda sur le dos, rangers aux pieds et filet à papillon épais à la main, une de mes inventions, je m'enfonce dans les bois inhospitaliers. S'en suivirent 3 jours de pérégrination, de déshérence sous la canopée fantasmagorique, 3 jours de découvertes et de rencontres tantôt mystérieuses, tantôt dangereuses. Ainsi j'ai pris dans mes filets quelques crébins du pays de Dain, remis à leur place d'autres elfes arrogants, tout froluquets et blonds platines qu'ils étaient, et vidé ma bombe anti-agression sur 2 trolls affamés, pour enfin arriver dans une clairière regorgeant du précieux champignon. Ni une ni deux, je déballe mon matériel d'observation et examine de pied en cap le mycète à la taxonomie indistincte. La description de Tolkien est tout à fait juste. Il s'agit sans doute d'un cousin imaginaire du fameux psilocybe. Son pied est long d'une 20aine de centimètres et surplombé par un petit chapeau bleu en forme de téton. Mais la nuit me surprend en plein milieu de mon analyse. L'endroit est paisible, le sol est meuble et recouvert d'une mousse confortable. Je décide donc d'y installer mon bivouac. 1 heure plus tard, la tente canadienne est érigée, la théière siffle sur le feu de camp et je termine ma currywurst. C'est alors que je me suis livré à la partie la plus empirique de mon étude. J'ai ingéré un de ces chapeaux bleus pour en découvrir les propriétés. J'ai tout d'abord cru que ces dernières étaient inopérantes. Mais peu à peu, force était de constater que ma capacité d'observation et d'attention était considérablement accrue. J'avais l'impression que tous les bruits de la forêt me parvenaient, et j'en discernais tous les mouvements. Il me fallait confirmer cette sensation, et je suis parti faire une petite marche nocturne en forêt, sans oublier mon filet à papillons, épais bien sûr, safety first, comme disent les anglo-saxons. Mais je dois le confesser, 50aine de pas plus loin, j'ai bondi dans mes cuissardes. Devant mes yeux éberlués, un arbre aux dimensions colossales extirpe une à une ses racines du sol et vient se poster devant moi. Le géant ouvre sur moi des yeux de bois. Il m'encercle de ses branches qu'il agite comme autant de bras vigoureux pour enfin me tendre un rameau à ma taille. Après quelques hésitations, je l'empoigne et lui serre la pince, tout en ôtant mon chapeau tyrolien avec déférence. La manœuvre semble lui convenir, et il ouvre dans son fût une entaille profonde, une bouche d'où surgit une voix caverneuse. C'était un ent du nom de Sylvester Vallone. Toute la nuit, j'ai conversé avec mon nouveau compagnon. À l'aube, les effets du champignon ont commencé à se dissiper. Je perdais cette attention extraordinaire, j'étais bien moins alerte. Les propos de Sylvester me paraissaient d'ailleurs de plus en plus décousus. J'ai finalement dû me rendre à l'évidence, j'étais en train de parler à un arbre, tout ce qu'il y a de plus classique, et ce depuis 6 bonnes heures. Je suis donc retourné au campement pour remballer, avec une migraine de tous les diables, puis j'ai fait vrombir les turbines de la DeLorean pour rentrer au pays. J'ai pris la décision de ne pas rapporter de ces champignons à l'association des amis de Tolkien, pensant qu'ils avaient déjà suffisamment de problèmes avec le vieux Toby et qu'il n'était vraiment pas nécessaire de les tenter avec des champignons hallucinogènes qui vous font débattre avec la végétation. Après cette escapade, je n'ai pas eu le temps, à vrai dire, de poser mes bagages. Je suis reparti directement pour une enquête dans les Carpates, d'où je vous ai d'ailleurs écrit. Mais, vous savez, je ne veux pas monopoliser l'antenne avec d'autres histoires farfelues et je pourrais peut-être les raconter un autre jour. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille 106.6.
La chronique aléatoire.
Et cette semaine, j'ai la cruelle tâche de m'attaquer à cette chronique aléatoire. Voilà 4 émissions que j'écoutais avec délice vos propres performances, et c'est à moi de passer après vous, vous qui avez placé la barre si haut. Cela dit, j'ai eu la chance de tomber sur la catégorie reportage. Or, celle-ci était déjà tombée puisque Arthur, ici présent, a tiré il y a quelques semaines « Reportage antique ». Alors on peut dire que j'avais des idées d'avance quant à la manière avec laquelle on pouvait faire un reportage. Mais franchement, l'embêtant, c'était l'autre contrainte. En noir et blanc. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fabrique ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on rapporte de noir et blanc à la radio ? Enfin, je ne sais pas qui sont les imbéciles qui ont inventé ces catégories sur la base d'opposition. Antique versus moderne, noir versus blanc, voire noir et blanc versus couleur. Mais... Notez d'ailleurs que si on m'avait demandé un reportage en couleur, j'aurais également été embarrassé, je vous jure. Pourquoi pas demain une chronique grande note de bas de page, ou encore éloge funèbre imberbe. Bref, comme je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, noir et blanc, pour du son, j'ai demandé autour de moi, donc je suis allé demander à Jeanne, Sébastien, Igor, Aurélien et Simon, qui sont... des amis à moi, et on va les écouter de suite. Ça,
tout voir en noir et blanc.
Ça me dit pas grand chose. Tout voir en noir et blanc.
Peindre tout en noir et blanc.
Non, je vois pas trop.
Oui.
Tu l'entends comment, toi ?
Bah, je crois que c'est une manière de. Enfin, en gros, de pas avoir les nuances, en fait, simplement.
C'est-à-dire la définition de la vie entre deux couleurs, c'est-à-dire une nuance. Qu'il n'y aurait pas de nuance et que ce serait soit l'un soit l'autre.
C'est quoi l'expression ?
Alors l'expression, c'est ma mère qui me l'a apprise. Et donc l'expression, c'est la vie, c'est pas tout rose et violette.
Voilà,
c'était un petit, c'était un toxicomane qui lui avait dit, mais vous savez, madame, la vie, c'est pas tout rose et violette.
Ah, voilà.
Voir tout en noir et blanc ? Non.
Non, ça veut rien dire pour toi. Tout noir, tout blanc.
Genre voir le monde de façon manichéenne, du coup.
Bah, il me semblait qu'il y avait une expression qui voulait dire à peu près ça.
Non.
Est-ce que t'as une histoire à raconter tout en noir et blanc ?
Tout en noir et blanc ?
Ou t'as vu le monde tout en noir et blanc, comme ça, ou alors t'as une idée de choses à raconter
Non.
Même pas une anecdote où y a rien qui te fait penser à ça ?
Pas du tout.
Alors, là, sur le coup, j'ai pas grand-chose qui me vient...
Je sais pas, je dirais juste... je t'avoue que j'ai pas d'anecdote là comme ça, quelque chose à nuancer, quelque chose qui est pas si facile... si facile que ce qu'on pourrait le croire. Je sais pas, hier soir on a discuté avec des amis autour du terrorisme et de l'essentialisation des gens comme étant des monstres, ce genre de choses. Je pense qu'en fait effectivement ça peut être très facile de tomber dans la là-dedans, parce qu'en fait c'est très rassurant, et du coup c'est-à-dire que considérer les gens comme étant comme ci ou comme ça, sans douer de nuances, effectivement.
En fait, j'ai voyagé cet été au mois d'août, donc j'ai fait un terrail, je me suis baladé un peu partout en Europe. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'au final, je voyais un peu les choses en noir et blanc, justement. Et parce que je voyais pas toutes les possibilités donc, du monde et de ce dont j'étais capable personnellement aussi.
Alors la discussion, c'était par rapport à une histoire donc, avec Igor, qui racontait qu'il a travaillé donc, en maison de retraite avec une personne d'un certain âge, enfin de 70 ans ou plus, qui tenait des propos... pour lui raciste vis-à-vis de certaines de ses collègues, et qui pour lui ne sont absolument pas excusables, et qui pour moi le sont compte tenu du contexte dans lequel a évolué cette personne durant toute sa jeunesse, durant toute sa vie, par rapport à ce qu'elle par rapport à ce qu'on lui avait inculqué au niveau des valeurs. Et du coup, alors sans pour autant y adhérer à ces propos-là, c'est juste pour moi, oui, bah cette personne-là ayant grandi là-dedans. Bon, après, maintenant, quand j'y pense, c'est vrai que ça peut être prêté à confusion. On peut pas tout pardonner non plus par rapport à ça, mais c'est vrai que pour moi, oui, enfin, c'est un peu excusable, quoi. Enfin, que c'est cette personne-là peut savoir des termes qui peuvent nous choquer maintenant, mais. Et pour autant.
Bon, vous voyez, personne n'a d'idée. Mais quand on cherche, on finit par trouver. Je dois être un mauvais intervieweur, peut-être. Enfin, quand même. On sent qu'il y a quelque chose avec la nuance. Ajoutez cette contrainte, la nuance. Là, on pourrait avoir de beaux sujets de reportage qui jettent un nouvel éclairage sur les réalités. Ça me fait penser à Bergson, le bon vieux Bergson, dont je vous lis un morceau pour conclure, en attendant d'avoir un langage plus nuancé. Nous nous exprimons nécessairement par des mots, et nous pensons le plus souvent dans l'espace. En d'autres termes, le langage exige que nous établissions entre nos idées les mêmes distinctions nettes et précises, la même discontinuité qu'entre les objets matériels. Et alors, dans quelques minutes, vous retrouverez l'équipe de Art & Bass qui vous prépare à 16h un concert, mais tout de suite, un petit passage de Cioran qu'Arthur va nous lire.
Il est là, dans le brasier du sang, dans l'amertume de chaque cellule, dans le frissonnement des nerfs, dans ses prières à rebours qui exhalent la haine. Partout, il fait de l'horreur son confort. Le laisserai-je saper mes heures alors que je pourrais, complice méticuleux de ma destruction, vomir mes espoirs et me désister de moi-même? Il partage, locataire assassin, ma couche, mes oublis et mes veilles. Pour le perdre, ma perte m'est nécessaire. Et quand on n'a qu'un corps et qu'une âme, l'un étant trop lourd et l'autre trop obscur, comment porter encore un supplément de poids et de ténèbres? Comment traîner ses pas dans un temps noir? Je rêve d'une minute dorée, hors du devenir, d'une minute ensoleillée, transcendante au tourment des organes et à la mélodie de leur décomposition. Entendre les pleurs d'agonie et de joie du mal qui s'entortille dans tes pensées, et ne pas étrangler l'intrus. Mais si tu le frappes, ce ne sera que par une complaisance inutile envers toi-même. Il est déjà ton pseudonyme. Tu ne saurais lui faire violence impunément. Pourquoi biaiser à l'approche du dernier acte ? Pourquoi ne pas t'attaquer à ton propre nom? Il serait entièrement faux de croire que la révélation démoniaque est une présence inséparable de notre durée. Cependant, quand nous en sommes saisis, nous ne pouvons imaginer la quantité des instants neutres que nous avons vécus avant. Invoquer le diable, c'est colorer pour un reste de théologie une excitation équivoque que notre fierté refuse d'accepter comme telle. Mais à qui donc sont inconnues ces frayeurs dans lesquelles on se trouve en face du prince des ténèbres? Notre orgueil a besoin d'un nom, d'un grand nom pour baptiser une angoisse qui serait pitoyable si elle n'émanait que de la physiologie. L'explication traditionnelle nous semble plus flatteuse, un résidu de métaphysique sied bien à l'esprit. C'est ainsi que, pour voiler notre mal trop immédiat, nous recourons à des entités élégantes encore que désuètes. Comment admettre que nos vertiges les plus mystérieux ne procèdent que de malaises nerveux, alors qu'il nous suffit de penser aux démons en nous et hors de nous pour nous redresser aussitôt?
Professeur, ce que vous disiez me rappelle une histoire. Vous connaissez ma propriété dans le faubourg du Cormeil. Je l'habitais au moment de l'arrivée des Prussiens. J'avais alors pour voisine une espèce de folle dont l'esprit s'était égaré sous les coups du malheur. Jadis, à l'âge de 25 ans, elle avait perdu en un seul mois son père, son mari et son enfant nouveau-né. Quand la mort est entrée une fois dans une maison, elle y revient presque toujours immédiatement, comme si elle connaissait la porte. La pauvre jeune femme, foudroyée par le chagrin, prit le lit, délira pendant 6 semaines. Puis une sorte de lassitude calme succédant à cette crise violente. Elle resta sans mouvement, mangeant à peine, remuant seulement les yeux. Chaque fois qu'on voulait la faire lever, elle criait comme si on l'eût tuée. On la laissa donc toujours couchée, ne la tirant de ses draps que pour les soins de sa toilette et pour retourner ses matelas. Une vieille bonne restait près d'elle, la faisant boire de temps en temps, ou mâcher un peu de viande froide. Que se passait-il dans cette âme désespérée? On ne le sut jamais, car elle ne parla plus. Songeait-elle aux morts? Rêvassait-elle tristement, sans souvenir précis? Ou bien sa pensée anéantie restait-elle immobile, comme de l'eau sans courant? Pendant 15 années, elle demeura ainsi fermée et inerte. La guerre vint, et dans les premiers jours de décembre, les Prussiens pénétrèrent à Cormeil. Je me rappelle cela comme d'hier. Il gelait à fendre les pierres. Et j'étais étendu moi-même dans un fauteuil, immobilisé par la goutte, quand j'entendis le battement lourd et rythmé de leurs pas. De ma fenêtre, je les vis passer. Ils défilaient interminablement, tous pareils, avec ce mouvement de pantin qui leur est particulier. Puis les chefs distribuèrent leurs hommes aux habitants. J'en eus 17. La voisine, la folle, en avait 12, dont un commandant, vrai soudard, violent, bourru. Pendant les premiers jours, tout se passa normalement. On avait dit à l'officier d'à côté que la dame était malade et il ne s'en inquiéta guère. Mais bientôt, cette femme qu'on ne voyait jamais l'irrita. Il s'informa de la maladie. On répondit que son hôtesse était couchée depuis 15 ans par suite d'un violent chagrin. Il n'en crut rien, sans doute, et s'imagina que la pauvre insensée ne quittait pas son lit par fierté, pour ne pas voir les Prussiens, et ne leur point parler, et ne les point frôler. Il exigea qu'elle le reçût. On le fit entrer dans sa chambre. Il demanda, d'un ton brusque, « Je vous prierai, madame, de fous le fait et de t'escendre pour qu'on fous foi. » Elle tourna vers lui ses yeux vagues, ses yeux vides, et ne répondit pas. Il reprit, « Je ne tolérerai pas d'insolence. » Si fou ne fou le fait pas de bonne volonté, je trouverai bien un moyen de vous faire promener tout seul. » Elle ne fit pas un geste, toujours immobile, comme si elle ne l'eût pas vu. Il rageait, prenant ce silence calme pour une marque de mépris suprême. Et il ajouta, « Si vous n'êtes pas descendu demain... » Puis il sortit. Le lendemain, la vieille bonne, éperdue, l'a voulu habiller. Mais la folle se mit à hurler en se débattant. L'officier monta bien vite, et la servante, se jetant à ses genoux, cria « Elle ne veut pas, monsieur, elle ne veut pas. Pardonnez-lui, elle est si malheureuse. » Le soldat restait embarrassé, n'osant, malgré sa colère, la faire tirer du lit par ses hommes. Mais soudain, il se mit à rire et donna des ordres en allemand. Et bientôt, on vit sortir un détachement qui soutenait un matelas comme on porte un blessé. Dans ce lit, qu'on n'avait point défait, la folle, toujours silencieuse, restait tranquille, indifférente aux événements tant qu'on la laissait coucher. Un homme par derrière portait un paquet de vêtements féminins. Et l'officier prononça en se frottant les mains « Nous ferons bien si vous pouffez pas vous appuyer toute seule et faire une petite promenade. » Puis on vit s'éloigner le cortège dans la direction de la forêt d'Immoville. 2 heures plus tard, les soldats revinrent tout seuls. On ne revit plus la folle. Qu'en avait-il fait? Où l'avait-il porté? On ne le sut jamais. La neige tombait maintenant jour et nuit, ensevelissant la plaine et les bois sous un linceul de mousse glacée. Les loups venaient hurler jusqu'à nos portes. La pensée de cette femme perdue me hantait, et je fis plusieurs démarches auprès de l'autorité prussienne afin d'obtenir des renseignements. Je faillis être fusillé. Le printemps revint, l'armée d'occupation s'éloigna. La maison de ma voisine restait fermée, l'herbe de rue poussait dans les allées. La vieille bonne était morte pendant l'hiver. Personne ne s'occupait plus de cette aventure. Moi seul, y songeais sans cesse. Qu'avait-il fait de cette femme? S'était-elle enfuie à travers les bois? L'avait-on recueillie quelque part et gardée dans un hôpital sans pouvoir obtenir d'elle aucun renseignement? Rien ne venait alléger mes doutes. Mais peu à peu, le temps apaisa le souci de mon cœur. Or, à l'automne suivant, les bécasses passèrent en masse. Et comme ma goutte me laissait un peu de répit, je me traînais jusqu'à la forêt. J'avais déjà tué 4 ou 5 oiseaux à long bec quand j'en abattis un qui disparut dans un fossé plein de branches. Je fus obligé d'y descendre et y ramasser ma bête. Je la trouvais tombée auprès d'une tête de mort. Et brusquement, le souvenir de la folle m'arriva dans la poitrine comme un coup de poing. Bien d'autres avaient expiré dans ces bois, peut-être, en cette année sinistre. Mais je ne sais pourquoi, j'étais sûr, sûr, vous dis-je, que je rencontrais la tête de cette misérable maniaque. Et soudain, je compris, je devinais tout. Il l'avait abandonnée sur ce matelas, dans la forêt froide et déserte. Et, fidèle à son idée fixe, elle s'était laissée mourir sous l'épais et léger duvet des neiges, et sans remuer le bras ou la jambe. Puis les loups l'avaient dévorée. Et les oiseaux avaient fait leur nid avec la laine de son lit déchiré. J'ai gardé ce triste ossement, et je fais des vœux pour que nos fils ne voient plus jamais de guerre.
Voilà, notre émission se termine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous étiez en compagnie Justin, Thibaut, Nicolas et moi-même Arthur. Voilà, vous pouvez, comme on l'a dit en début d'émission, nous contacter, nous envoyer vos courriers des lecteurs ou même vos retours simplement, si vous avez aimé, pas aimé, enfin tout ce que vous voulez. Notre adresse mail fabula.narratour@laposte.net. Vous pouvez également consulter notre site internet avec nos émissions, les références de nos textes et des musiques. Donc le site c'est fabulanarratourblog.wordpress.com. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour nos prochaines émissions et le cycle thématique qui commencera et qui sera autour de la notion de la fin, F-A-I-M. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine, on vous laisse sur les ondes de Radio Campus en compagnie de Art & Bass tout de suite après. Bon week-end.
Salut à tous.
Salut.
Salut.
Quand la belle saison des allocs fait chanter l'eau des caniveaux, ils adoptent des gonocoques. Ah mon Dieu, que le monde est beau! J'habite un joli rez-de-chaussée où je t'aime à te manger les oreilles, où je te souffle dans les nénés avant de te niaquer les orteils. Chaque soir de cette vie sans sécu, j'ai l'œil idiot des gens contents quand je m'attends travers ton petit cul qui remue quand tu te laves les dents. We'll be right back.
We'll be right back.